Je remercie le patronage laïque Jules Vallès. J'avais demandé ce que voulait dire patronage laïque, parce que moi, je suis musulmane, mais j'étais élevée chez des religieuses catholiques. Et je ne comprenais pas très bien ce que voulait dire patronage laïque. Alors, on m'a expliqué. Je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout aujourd'hui, où effectivement, le laïcisme, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas un militantisme anti-religion, c'est tout à fait autre chose. Et là, c'est souvent mal compris. Donc, le sujet, effectivement, est un sujet brûlant. Et voilà, je vais essayer en quelques... le peu de temps qui m'est imparti, d'essayer de vous donner quelques indices. Il est évident que je ne peux pas... ça demanderait au moins un livre, sinon des livres. Mais enfin, je vais vous donner quelques... D'une part, la première chose, c'est que quand on dit la femme musulmane, ça, on veut... Est-ce que ça va, ça ? Quand on dit la femme musulmane, ça marche, ce micro ? Elles sont très différentes selon les cultures, les pays. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la femme en Arabie Saoudite, où, comme vous savez, elle est voilée, c'est une tente noire, voilée, elle ne peut rien faire. Elle a eu le droit récemment de voter, mais enfin bon, c'est bien. Mais elle ne peut toujours pas conduire, elle ne peut pas sortir sans un mal de la famille, etc., etc. Elle n'a vraiment aucun droit. Et la femme musulmane d'Indonésie, qui, elle, au contraire, c'est un islam plutôt ouvert, même si depuis quelques années, l'Arabie saoudite envoie ses missionnaires partout dans le monde, et notamment en Indonésie, pour essayer d'imposer cet islam absolument, l'islam wahhabite, dont nous parlerons d'ailleurs un peu plus tard, qui est un islam qui est en fait, pour beaucoup de gens, qui n'est pas de l'islam. Et je vous dis tout de suite, d'ailleurs, quand le wahhabisme est né à la fin du XVIIIe siècle, c'était le Ibn Wahd, qui était un mystique, ou un religieux. Il a développé cette théorie extrêmement rigoriste, extrêmement dure d'un islam qui n'existait pas jusque-là. Et Al-Azhar, c'est-à-dire Al-Azhar en Égypte, au Caire, c'est un peu comme Rome, c'est-à-dire c'est le centre de... c'est le centre de la religion, c'est le centre de la science religieuse, c'est eux qui disent ce qui est musulman, ce qui n'est pas musulman, etc. Enfin, c'est eux qui sont censés le dire, qui sont censés avoir l'autorité, maintenant qu'il n'y a plus de calife. Eh bien, Al-Azhar a dit ce wahhabisme, ce n'est pas l'islam, c'est une hérésie. Alors ça, je crois que c'est important de le savoir. Hélas, à cause, avec les pétrodollars, l'Arabie saoudite et le Qatar et quelques autres sont en train d'essayer de convertir ou en tout cas d'amener à leur théorie extrémiste le monde musulman. Donc, je disais, l'Indonésie, qui était un pays, qui est toujours un pays où la femme... se promène, n'est pas voilée, ou enfin elle commence à l'être maintenant, quelques-unes, mais n'était pas du tout voilée, avait ses ravissantes robes indonésiennes très près du corps, et c'était des femmes assez libres. Donc ça n'avait rien à voir, cet islam indonésien, avec l'islam wahhabite d'Arabie Saoudite ou du Qatar, etc. Donc voilà, c'est parce que cet islam, finalement, c'est une religion qui est arrivée et qui s'est fondue dans une culture. Quand c'était une culture déjà très évoluée, comme la culture syrienne, par exemple, ou syrienne, ou indonésienne, puisque je parle d'Indonésie, ou indienne même, ça a donné un tout autre genre d'islam, un islam assez ouvert. Quand c'est arrivé sur une société de bergers, de pêcheurs, de gens très frustre, c'est devenu un islam très frustre et très primaire. Donc, moi, je vais vous parler un peu... D'abord, je vais vous dire que la femme... Je vous parlerai de la théorie, mais je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. La femme musulmane a eu beaucoup de pouvoir au cours des siècles. Il n'y avait pas en islam de loi salique, c'est-à-dire que la femme avait le droit de régner, non pas d'être seulement la femme du roi ou la femme du chef d'État, mais elle pouvait être elle-même gouvernée, gouverner un État. Et il y a eu pas mal d'exemples, il y a une vingtaine au moins, entre le 10e et le 20e siècle, il y a une vingtaine de femmes qui ont régné avec beaucoup de pouvoir sur le monde musulman, en Andalousie, en Perse, en Égypte, aux Maldives, en Inde. En Inde, assez récemment, enfin récemment, c'est-à-dire en fait entre 1819 et 1926, il y a une dynastie de femmes qui a régné sur le plus grand état musulman de l'Inde, qui était l'état de Bhopal. Et ce qui s'était passé, c'est que c'était des... Vous savez, on disait les Indes. Les Indes, c'était donc différents états, royaux, princiers, avec des rajas, des maharajas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Bhopal, le maharaja a trouvé que son fils était moins intelligent que sa fille. Donc, il a écarté le fils et il a dit, c'est ma fille qui va régner. Et sa fille lui a succédé. Elle s'appelait Kutsiye Begum. Et elle a aussi nommé sa fille, et quatre générations de Bégoms, on appelait ça les Bégoms, c'était des reines, ont régné sur cet état qui était un énorme état indien. Et nous avons eu d'ailleurs à Paris le descendant, je connaissais bien, le descendant de la dernière Bégom. J'ai connu d'ailleurs la fille de la dernière Bégom, qui était une femme qui avait une personnalité absolument extraordinaire. Bon, donc voilà, en Inde, chez les Moghols, il y avait une coutume, c'était que la femme de l'empereur défunt gouvernait jusqu'à l'élection du nouveau souverain. Alors, elle était régente, vous me direz. Mais la fille de Gengis Khan, par exemple, a régné 4 ans chez les Moghols. Les Moghols, ce n'étaient pas des tendres. Elle a régné 4 ans après la mort de son mari, secondée par une autre femme musulmane, qui était son premier vizir, qui s'appelait Fatma Khatun. Il y a eu beaucoup de souveraines aussi d'origine turque. Les Turcs, comme vous savez sans doute, viennent d'Asie centrale. C'était des nomades. Ils chevauchaient avec leurs femmes. Donc les femmes, bien évidemment, n'étaient pas voilées. Elles chevauchaient avec les hommes. Elles étaient donc à un niveau assez, disons, relativement égal. Et elles étaient assez libres. Et chez les Mongols, dans les premiers temps, le gouvernement était toujours dirigé par une princesse. Les Turcs se sont islamisés au Xe siècle. Avant, c'était du chamanisme. Il y en a eu à Delhi, il y a eu des sultanes. Il y a une sultane très intéressante, la sultane Sejet-Udur en Égypte. Elle était la première souveraine de la dynastie des Mamelouks, qui a duré 136 ans. Et elle a été très intéressante pour les Français, de la mesure où c'est elle qui est arrivée à un accord avec les Français. Les Français lui ont rendu la forteresse de Damiette, et contre cela, elle a libéré Louis IX, Saint-Louis. Saint-Louis était à ce moment-là captif, et donc elle a fait une négociation avec les Français qui ont rendu Damiette, et Saint-Louis a été libéré. Donc à ce moment-là, les Français ont donc abandonné Damiette, qu'ils avaient occupé 11 mois, ils sont allés à Saint-Jean d'Acre. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris Saint-Jean d'Acre. Dans les temps modernes, tout le monde se souvient de Benazir Bhutto. Quand même, c'est un pays, le Pakistan, c'est un pays qui a l'air un peu dur. Et elle a quand même été élue en tant que femme et par des hommes. Parce que quand même, c'était surtout des hommes qui votaient. Les femmes, en général, votaient pas toujours. Enfin bon... Et donc, elle a été élue. D'accord, son père était un homme qui était très respecté. Mais enfin, elle a quand même été élue par 2 fois. Au Bangladesh, se sont succédés depuis la création du Bangladesh en 71, se sont succédés au pouvoir des femmes. La femme de Mujibur Rahman, qui était le fondateur du Bangladesh, et ensuite la femme de général Ziaur Rahman. Et ces deux femmes se disputent le pouvoir, et l'une après l'autre, elles se succèdent. Bon. Voilà, donc en Turquie, nous avons une femme, une présidente, Tansu Çiller. Voilà. Mais pour en revenir, ça, c'est pour vous donner une idée, quand même, les femmes ne sont pas toutes, d'abord, elles ont des positions différentes en islam, mais elles ne sont pas toutes des femmes opprimées. Mais revenons aux fondamentaux du Coran, ce que dit le Coran. Et ensuite, on parlera de ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui se passe depuis plusieurs siècles, en essayant de comprendre pourquoi. Pourquoi, justement, comme je dis, l'islam, qui fut un instrument de libération des femmes à son apparition, au 7e siècle, fut vraiment un instrument de libération, et je vais vous expliquer pourquoi et comment, comment est-ce qu'aujourd'hui il peut être utilisé comme un instrument de répression? Alors, il faut voir un peu la situation de la femme depuis l'Antiquité jusqu'au 1er siècle du christianisme et même jusqu'à Byzance. Bon, d'abord, les femmes étaient voilées, gardées par des eunuques. Ça, c'était à Byzance. Les eunuques, n'est pas une création, une invention musulmane. C'était à Byzance. À Byzance, les eunuques gardaient les femmes pour que... Bon, c'était la coutume. Et les Turcs ont repris cette coutume. Alors, au IIIe siècle, Tertullien disait « La femme est la porte du diable ». Aristote, au IVe siècle, disait que les femmes sont inférieures, physiquement et mentalement. Elles sont dépendantes de leurs instincts les plus bas. Elles sont corrompues et elles corrompent. Saint Augustin, ce n'était pas tellement mieux. Il disait « Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme ? Elle n'est pas utile à l'homme, sinon pour faire des enfants. » C'était seulement en Égypte antique que la femme avait les mêmes droits que les hommes, ce qui scandalisait beaucoup les Grecs et toutes les autres cultures. Comme vous savez, les Grecs, les femmes n'avaient pas... Les femmes, les esclaves, les étrangers n'avaient pas les mêmes droits. Ça ne faisait pas partie de la démocratie grecque. Alors... quand est arrivé au 7e siècle le prophète Mahomet, à l'époque, c'était assez courant de tuer les petites filles, parce que les petites filles étaient un fardeau. Ça se passe hélas toujours en Inde aujourd'hui, chez les hindous, parce que chez les hindous, les filles pour les marier, il faut donner une dot. Les dots ruinent des familles, parce que les dots sont de plus en plus fortes. Et donc, souvent, on tue les petites filles à naissance. C'est une parenthèse. Donc, au 7e siècle, Mohamed dit les filles sont comme les garçons, ce sont des cadeaux du ciel. Il est criminel de les tuer. Et elles doivent recevoir une éducation aussi poussée que les garçons, car elles doivent pouvoir... Et pourquoi elles doivent recevoir une éducation? Il a mis l'importance, une très grande importance sur l'éducation. D'ailleurs, le premier mot du Coran, c'est « ikra », ce qui veut dire « lit ».« Lit », »,« apprend ». Et parce que dans l'islam... Comme vous savez peut-être, il n'y a pas de clergé. Normalement, il n'y a pas de clergé. Mahomet avait vu les dégâts que faisaient les clergés dans le christianisme, dans le judaïsme, un peu partout. Et donc, il n'y avait pas de clergé. Il y avait le livre, le Coran, qui est censé être la parole de Dieu, transmise à Mahomet. Et il y avait le Coran. Et donc, le croyant devait être éduqué pour être capable de comprendre le Coran, être capable de décider de ce qu'il fallait qu'il fasse en s'inspirant du Coran. Et donc, c'était... Alors, bien évidemment, en fait, il y avait loin d'y tout y avoir, même à l'époque, sur le Coran, dans le Coran, parce que, par exemple, pour vous dire, sur 6200 versets du Coran, comme il y a très peu de commandements sur la vie de tous les jours, il y en a environ 250. Le reste, c'est... sur l'adoration de Dieu, l'amour de Dieu, ce sont des choses beaucoup plus métaphysiques. Donc, il y a assez peu de choses dans le Coran, mais il y en a quand même un certain nombre. Et je vais vous parler donc de certaines qui concernent les femmes. Alors donc, l'éducation, comme je dis, le premier devoir d'une musulmane comme d'un musulman, c'est d'être éduquée. Alors qu'en Occident, je ne sais pas si vous savez quand est-ce que il y a eu les premières écoles pour les... Vous devez savoir, les premières écoles primaires pour les filles, quand est-ce que ça a été obligatoire? Victor Duruy, c'est cours secondaire. La loi Fallou, c'est pour les cours primaires, une école primaire. Donc, c'est assez récent. L'héritage. Les femmes musulmanes ont le droit d'hériter dès le 7e siècle. Le Coran leur donnait le droit à l'héritage. Alors, elles avaient le droit à la moitié de l'homme. Bon, je commence à dire d'abord, avant de dire ça, c'est qu'à l'époque, en Occident, les femmes n'héritaient pas. Elles ont eu la permission d'hériter avec la Révolution française en 1790. Et bon, avant, elles avaient une dot, mais elles n'avaient pas droit à l'héritage. Donc, l'héritage, dans l'islam, la fille ou avait le droit à la moitié du garçon. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est insupportable. Mais à l'époque, c'était compréhensible parce que les jeunes filles vivaient chez leur père, comme partout dans le monde, jusqu'à il y a une centaine d'années, vivaient chez leur père, qui s'occupait de tout, elles sortaient de chez leur père pour être mariées. Et le mari aussi était censé s'occuper de leur bien-être matériel. Elle recevait quand même donc la moitié. Et cette moitié d'héritage, c'était pour elles en faisaient ce qu'elles voulaient, et théoriquement. Et aussi, au moment du mariage, la famille, ce n'était pas la famille de la fille qui donne de l'argent, c'est la famille du garçon qui donne de l'argent. Et ça s'appelle le mehr. C'est une sorte de dot, mais inversée. Et le mehr, M-E-H-R, est une somme que la femme doit garder et c'était dans l'idée qu'elle ait quelque chose au cas où elle se retrouve seule, divorcée ou veuve, et qu'elle ne soit pas à la rue. Donc, ça lui donnait une indépendance financière. Tout ça, c'était ce qui était ce qui est dans le Coran, ce qui était les ordres du Coran, disons. Ce qui a été fait a été différent, bien sûr. Mais on en parlera après. Bon. La polygamie. Alors, la polygamie, c'est pas extraordinaire. À l'époque, c'était une époque de guerre et c'était dans l'idée que, encore une fois, une femme ne peut pas rester seule parce qu'à ce moment-là, elle est en danger, elle est la proie de n'importe quoi, etc. Donc, l'homme avait la permission d'avoir quatre femmes. Mais c'était quand même très, très, très encadré comme permission. Il est dit dans le Coran qu'on peut avoir quatre femmes. Alors, à l'époque, dans la péninsule arabique, on avait toutes les femmes qu'on voulait, on ne se mariait pas d'ailleurs. Bon. Et il est dit que l'homme peut avoir quatre femmes au maximum, mais il faut qu'il les traite toutes également, matériellement, affectivement, sexuellement. C'est-à-dire que s'il y a quatre femmes, il est obligé d'aller voir chacune à son tour, sinon ça fait des drames. Alors, je vais vous lire. Mais alors, comme bien évidemment, c'est très difficile de traiter ces quatre femmes de la même façon, la sourate 4, verset 129, attendez, non, verset, sourate 4, oui, verset, non, verset 3, je ne sais pas pourquoi je dis 129, 3, épousez comme il vous plaira deux, trois ou quatre femmes. Mais si vous craignez de n'être pas équitable, prenez une seule femme. Cela vaut mieux pour vous que de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la 129. Attendez. Ah oui. Alors, la sourate 129 dit « Vous ne pouvez être parfaitement équitable à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir. » Donc, voilà. Alors, il y a un avantage à ces mariages. C'est ce que vous disent aujourd'hui, d'ailleurs, certains musulmans, même si aujourd'hui, il n'y a, pour ainsi dire, plus de polygamie parce que ça coûte d'abord très cher. Alors, sauf, bien sûr, les harems d'Arabie Saoudite, mais encore une fois, c'est un cas assez à part du Golfe. Mais, ou bien, parfois au contraire, ce sont des hommes pauvres qui ont deux femmes parce qu'en Inde, par exemple, ou ailleurs, elles leur servent de main-d'œuvre gratuite. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'ai vu en Inde souvent ce cas-là, c'est que c'est la première femme qui choisit la seconde femme. Parce qu'elle vous explique qu'elle en a assez pour qu'elle est fatiguée, que de toute façon, le devoir conjugal, ça l'intéresse plus du tout. qu'elle est très contente d'avoir une seconde femme qu'elle va choisir, elle, parce qu'elle va faire s'occuper de tout, du ménage, elle va s'occuper de tout, et puis elle va s'occuper aussi, elle va partager le lit du mari, c'est très bien. Et donc, c'est très amusant, parce que souvent, effectivement, ça se passe très bien, la première femme choisie. Comment ? Un boulet ? Pour la retenir, non, peut-être pas, mais enfin bon. Alors, donc, dans, aussi, un des avantages, de, si on peut dire, c'est qu'en islam, il n'y a pas... Enfin, c'est pas seulement ça, d'ailleurs, c'est qu'en islam, il n'y a pas de bâtard. C'est-à-dire, tout enfant, même, non seulement d'une des femmes, mais d'une maîtresse, ou d'une, tout enfant est reconnu comme enfant légal et a le droit aux mêmes avantages, héritage, etc., que l'enfant né d'un mariage légal. Et là-dessus, les musulmans vous disent souvent, en Occident, les hommes ont des maîtresses, ensuite les enfants ne s'occupent pas des enfants, c'est une catastrophe, etc. Nous, au moins, on s'occupe, il n'y a pas de bâtard chez nous. Voilà. Alors, un autre droit de la femme, c'est le droit au divorce, qui a été donné aussi au 7e siècle. Mais ce droit au divorce, il faut qu'il soit stipulé dans le contrat de mariage. Elle a le droit, la femme a le droit, mais il faut que ce soit stipulé dans le contrat de mariage. Parce que vous savez, le mariage en islam n'est pas un sacrement, c'est un contrat. Ça n'a rien de religieux. Donc, mais souvent, effectivement, les femmes ou les familles n'osent pas parler de ça. Donc, mais certaines, ou assez souvent, il est stipulé que le mari n'a pas le droit de prendre une seconde femme, justement. Sinon, il divorce. Et le divorce, et pour toutes sortes de raisons assez intéressantes, le divorce, elle peut demander à divorcer au cadi, au juge, si son mari ne l'entretient pas comme elle pense qu'elle doit être entretenue matériellement, et s'il ne fait pas son devoir conjugal. Et Mahomet était le premier à accorder le divorce à une femme qui lui demandait. Il faut se souvenir qu'en France, le droit au divorce a été donné en 1884, sous le gouvernement Jules Ferry. Bon, le voile, alors le fameux voile, qui agite tout le monde, bien plus que tous les problèmes économiques du pays, presque. Alors, écoutez, d'abord, le voile n'est pas une coutume musulmane. C'est une coutume qui remonte à l'Antiquité grecque et romaine. Je ne parle pas du tout de la figure, le visage caché, bien évidemment, je parle du voile autour du visage, plus ou moins serré. Bon. Alors, le voile, comme le portait d'ailleurs Benazir Bhutto, qui est un assez joli voile, comme portent d'ailleurs les femmes hindoues, ce qui est une espèce de draperie sur les cheveux, etc. C'est donc remonte à l'Antiquité grecque et romaine. Au début de l'ère chrétienne, la femme syrienne, par contre, était couverte de la tête aux pieds. À Byzance aussi, les femmes se voilaient. Et c'était, comme d'ailleurs dans l'islam par la suite, pour distinguer la femme de bien de la prostituée. Ce qui s'est passé, dans l'islam, c'est qu'effectivement, enfin dans l'islam, dans les pays musulmans, au début, comme il y avait pas mal de guerres, il y avait beaucoup de captives, de femmes captives, et les femmes captives étaient un gibier permis, disons. Et donc, elles se promenaient dans la rue, assez découvertes, etc. Donc, on a dit aux femmes de bien qu'elles devaient être vêtues modestement pour qu'on ne les aborde pas et qu'on ne les importune pas. Mais pour en venir à la question du voile, sur lequel on a dit beaucoup, beaucoup de choses, encore une fois, le visage caché est une totale hérésie. C'est une coutume du Golfe. Hélas, encore une fois, Qatar, Arabie Saoudite, Yémen, etc. Mais par contre, on insiste, ou enfin beaucoup, beaucoup de femmes, la plupart des femmes et des hommes musulmans insistent que les cheveux doivent être cachés. Mais même ça, ce n'est pas dans le Coran. Même ça, c'est une coutume. Et je vais vous lire les deux versets. Il y a deux versets seulement dans le Coran qui parlent du voile. Alors, c'est... Alors, la sourate, sourate 33. Alors, sourate 33, verset 59. Voilà. Au prophète, alors ça, c'est dit à Mahomet, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. Alors, c'est traduit voile dans certaines traductions du Coran. Dans d'autres, c'est traduit par mante ou cape. C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. En fait, comme je vous ai dit, c'était là, ce qui est dit, c'est qu'il faut que la femme soit vêtue modestement, c'est-à-dire qu'elle ne montre pas ses atours. Dans la sourate 24, ses atours voulant dire en fait ses appâts. Sourate 24, il y a les versets 30 et 31, qui dit aux croyants, donc aux hommes, de baisser leur regard, d'être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Dit aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile ou leur mante sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, leurs pères, les pères de leurs époux, leurs fils, leurs frères, etc. etc. Bon. Donc, nulle part, il n'est écrit qu'on doit couvrir ses cheveux. Et tout récemment, il y a eu une fatwa, disons, très intéressante de l'université d'Al-Azhar, dont je vous ai dit que c'est le Rome des musulmans, qui a dit que le voile, je ne l'ai pas, j'aurais dû l'apprendre là, vraiment, qui a dit, mais il y a 6 mois, oui à peu près, qui a dit que le voile était une coutume de différents pays, mais que ce n'était que couvrir ses cheveux n'avait jamais été prescrit par le Coran. Alors, si vous dites ça à des musulmanes ou à des musulmans, ils vont dire, vous n'y connaissez rien, ta, 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 ta. Mais bon, c'est la réalité. Mais bon, bien évidemment, les choses. Alors, maintenant, on va parler aussi de l'adultère, parce que là, c'est pas très drôle non plus, ce qui se passe. Alors, est-ce que vous savez que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'adultère en France, des femmes, enfin, ça ne se faisait pas beaucoup, mais là, c'était la loi, était puni de prison de 3 mois à 2 ans, l'homme, une simple amende. Bon, alors, d'accord, ça ne se faisait pas, je pense, mais c'était toujours la loi, quand même. Et d'ailleurs, bon, au Moyen-Âge, ou etc., à l'époque, en Europe, la femme adultère était attachée, il y avait différentes punitions, elle était attachée nue sur un âne et battue à chaque coin de rue, ou bien elle était enduite de miel pour attirer les abeilles. Et puis, il y avait aussi, parfois, elle était tout simplement tuée. La lapidation n'a jamais, jamais été mentionnée en islam. Jamais. C'est une ancienne coutume juive. Ancienne. Ça n'a jamais été, ni dans le Coran, ni dans... Enfin, c'est assez quand même ironique de penser que l'Arabie saoudite, qui se dit le pays de l'islam, a adopté une coutume juive pour lapider ses femmes. C'est quand même assez, assez intéressant. Bon, ou bien il les décapite au sabre. Dans l'islam, ce qui se passe pour l'adultère, faut se souvenir qu'on était au 7e siècle, hein, que c'est pas le 21e siècle. Une femme adultère, comme l'homme adultère, sont punies de 100 coups de fouet. Mais, c'est pas très sympathique, mais il faut 4 témoins qui aient vu l'acte en train de se faire. Alors, faut bien où on le fait dans la rue, à ce moment-là, bon, mais sinon, je vois pas très bien, c'est un peu difficile. Alors, 4 témoins. Si ces témoins, s'il y a des gens qui racontent tout ça et qui ne peuvent pas prouver que vraiment ils l'ont vu et que c'est vrai, les témoins sont eux qui sont punis de 80 coups de fouet. Donc, vous voyez, c'était pas facile de punir l'adultère. Quand même, 4 témoins, c'est pas évident. Voilà. Bon. Alors, il y a le témoignage. Alors, bien sûr, j'ai encore entendu hier à la télévision qu'en islam, une femme vaut la moitié d'un homme, et ça se réfère au témoignage. Alors, le témoignage, mais seulement dans des affaires financières. Dans des affaires financières, il faut voir le contexte dans le Coran, il faut le témoignage de deux femmes pour celui d'un homme. Mais en même temps, il y avait des femmes qui étaient juges et des femmes chefs de gouvernement, ce qui montre qu'on leur reconnaissait quand même assez de jugement. En France, est-ce que vous savez que c'est en 1938 seulement que la loi reconnaît à la femme le droit de témoigner en justice ? 1938. Bon, alors, l'indépendance financière, j'en ai parlé déjà, l'indépendance financière, et c'est d'autant plus évident que la première femme du prophète, Khadija, était une importante femme d'affaires. Elle avait des caravanes qui sillonnaient le désert. Et d'ailleurs, Mahomet a d'abord été son secrétaire. Et il était plus jeune qu'elle. Et il était très, très amoureux d'elle. Elle l'a conseillé, elle l'a aidé. Quand elle est morte, il s'est marié. Il a eu plusieurs femmes. Et celle qu'il a préférée, c'était une toute jeune femme. Il l'a épousée, elle avait 14 ans, je crois, et peut-être même 13, et qui s'appelait Aïcha. Et Aïcha avait, en fait, une certaine liberté. Elle s'asseyait à la table de Mahomet avec ses invités. Et on raconte, elle discutait politique, elle parlait avec eux. Elle a été, même après la mort de Mahomet, conduit une bataille qui s'appelle la bataille du chameau, enfin une guerre, la bataille du chameau, où elle a été vaincue d'ailleurs, contre des ennemis de l'islam. Donc elle a fait la guerre, elle a été chef de guerre. Donc on voit et d'ailleurs il est connu que le prophète Mahomet était très respectueux, c'est un homme très doux et très respectueux des femmes. Donc tout ce qui s'est passé par la suite, ça va totalement contre l'esprit du Coran. Et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que l'islam donc a évolué de cette façon-là, d'un instrument de libération devenu un instrument d'oppression? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait son aggiornamento, pourquoi il ne s'est pas actualisé, pourquoi il ne s'est pas modernisé? Il y a eu beaucoup de raisons, pas mal de raisons. Je ne pourrais pas les donner toutes, mais je vais vous donner quelques pistes. D'une part, je voulais vous dire d'abord que Mahomet avait recommandé l'interprétation. Il avait dit tout n'est pas dans le Coran. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes auxquels n'est pas répondu dans le Coran. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et il avait envoyé un ambassadeur au Yémen, un émissaire au Yémen, qui devait aller s'installer au Yémen pour... je ne dirais pas évangéliser, mais en tout cas apporter l'islam au Yémen. Et avant de l'envoyer, il lui a dit, c'est une histoire extrêmement connue, il lui a dit, si tu as un problème, où est-ce que tu cherches? Il a dit, je regarde dans le Saint-Coran. Alors le prophète lui dit, oui, mais si tu ne vois pas dans le Saint-Coran, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, je regarde dans les hadiths. Alors les hadiths, c'était... les faits et les gestes du prophète tels qu'ils ont été écrits et rapportés par ses descendants, par les compagnons du prophète et ceux qui les ont. Alors il dit, je regarde dans les hadiths, je regarde ce qu'a fait, ce qu'a dit le prophète. Il dit, oui, et si tu ne trouves pas là? Alors il lui dit, j'exerce mon jugement. Et Mahomet lui a dit, tu as tout compris, tu peux partir. Donc il était très important, le fait qu'on demandait, il insistait tellement sur l'éducation, c'était que pour que les gens puissent exercer leur jugement face aux problèmes de la vie. Et non pas, comme aujourd'hui c'est fait, répéter de façon mécanique et idiote des choses qui n'ont plus du tout, plus rien à voir avec les problèmes d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est alors donc l'interprétation qu'on appelle ijtihad en arabe, ijtihad, était très très important. Et cette ijtihad, interprétation, a été faite pendant assez longtemps, à peu près jusqu'au Xe siècle. Un des exemples d'ijtihad s'est passé très vite après la mort du prophète, du temps du calife Omar. Omar était un homme assez dur, c'était un guerrier. Et vous savez qu'en islam, la punition pour le voleur, c'est de couper la main. Alors, c'est plus fait maintenant, sauf en Arabie Saoudite, encore une fois. Vous voyez que je les aime beaucoup. Mais à l'époque, c'est pas pour dire que c'est bien mieux de couper la main, j'en sais rien. Mais à l'époque, quand même, on était pendu ou on avait la tête tranchée ailleurs. Mais bon, c'était de couper la main. Du temps du calife Omar, quelques années après la mort de Mahomet, il y a une grande famine. Et Omar a donc interprété, il a dit, si on vole parce qu'on a faim, ce n'est pas du vol, et donc il ne doit pas être puni. La personne, le voleur, s'il vole parce qu'il a besoin, ne doit pas être puni. En fait, le coupable, c'est son voisin qui a de l'argent et qui ne lui a pas donné à manger. Donc ça montre que le Coran devait être interprété selon les circonstances et selon les besoins. Et donc, jusqu'au Xe siècle, ça a été interprété. Il y avait beaucoup d'interprétations d'ijtihad. Et il faut dire que c'était l'époque de la gloire des conquêtes et de la gloire de l'islam. C'était le califat, les grandes périodes d'éclat dans le monde musulman. C'était le califat de Bagdad, qui était du 9e au 12e siècle et qui était vraiment une chose extraordinaire, qui est très ouverte. Il y avait la poésie, l'architecture, la peinture. Il y a eu le califat de Cordoue au 10e et 11e siècle. Il y a eu Grenade, bien évidemment, où toutes les religions coopéraient pour faire dans la science, dans les arts, dans la philosophie, etc. Il y a eu la grande civilisation égyptienne, des Fatimides. Il y a eu la Perse, il y a eu l'Inde avec les grands moghols. Les grands moghols en Inde, le grand moghol, on disait moghol, pas mongol, c'était pas des mongols, c'était des gens d'origine turque. Il y avait vous avez le Taj Mahal, qui a été fait par les moghols. Et le grand empereur moghol Akbar faisait des réunions avec des savants de toutes les religions possibles. Bouddhisme, jaïnisme, islam, christianisme, etc., hindouisme, bien sûr. Et il voulait trouver les bases communes à toutes les religions. Il était musulman, lui. Hein. Il voulait trouver les bases communes à toutes les religions. Et donc, il était arrivé à faire une religion qui s'appelait Din Ilahi, qui voulait dire la religion de tous, enfin. Ça n'a pas duré après sa mort. Mais vous voyez, il y avait cette recherche qui était très importante. Bon, alors donc, si vous voulez, ce qui s'est passé jusqu'au 10-11e siècle, un peu parfois plus tard, il y avait une assez grande ouverture. Mais les choses ont commencé à aller mal quand le monde musulman a commencé à se fragiliser. Et c'est à partir du 10e siècle, il a été secoué par les attaques des Seljoukides et surtout par les conquêtes mongoles. Les Mongols sont arrivés, Gengis Khan, etc. Et ils ont complètement décimé et détruit les civilisations de Bagdad, de l'Anatolie, etc. Et à partir de ce moment-là, et puis il y a eu en Espagne, bien sûr, la reconquête espagnole, et donc la destruction des foyers extraordinaires de cette triple culture, au moins triple culture, qu'on appelait Al-Andalus, qui étaient juives, musulmanes, chrétiennes. Et ça a été détruit, il y a eu l'Inquisition. Et donc, c'était des périodes de troubles dans tout ce monde musulman. Et comme souvent dans les périodes de troubles, on voit aujourd'hui, ça me vient à l'esprit, ça n'a peut-être rien à voir, mais aujourd'hui, avec le terrorisme, on est en train de mettre une sorte d'état d'urgence à la Constitution. Bon, là, effectivement, on s'est resserré sur soi-même. On a censuré beaucoup de libertés parce que, donc en islam à l'époque, je veux dire, l'essentiel, c'était, il ne fallait surtout pas ajouter de révolte à tous ces troubles. Il ne fallait pas ajouter d'autres troubles en se révoltant, en mettant en question, en posant des questions, en mettant en question les doctrines, les théories. L'essentiel pour le croyant, c'était de garder un islam unifié. Et donc, toutes les questions qu'il y avait sur cet islam, qui était très vivant à l'époque, on a arrêté tout ça. Il fallait garder un islam fort, unifié. Et avant, dans l'islam, comme dans beaucoup de religions, on disait, si vous voyez le mal, il faut le combattre. Si un chef est injuste, il faut se révolter contre lui. Et que ce soit combattre par l'épée ou par la persuasion, mais par tous les moyens possibles. Mais à partir du XIe, XIIe siècle, on a mis en place une théorie nouvelle. L'important, c'est donc la paix dans la société. Celui qui est au pouvoir, il a peut-être l'air injuste, mais comme c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir, c'est entre Dieu et lui que les comptes se feront, et le peuple doit obéir. Et c'est comme ça que peu à peu, se sont installées des dictatures dans le monde musulman. Alors, il y a eu d'autres raisons aussi. Alors, d'ailleurs, là-dessus, ces dictatures, a pris de l'importance à ce moment-là la classe des savants, les oulémas, qui en fait étaient les savants en sciences religieuses, et ils ont pris beaucoup d'importance. Mais en fait, ils étaient aussi les instruments des dictateurs. Alors le dictateur était là et les oulémas, les religieux, faisaient régner l'ordre, la police religieuse. Mais aussi, ça a été ces troubles, mais aussi une des raisons de ce déclin de ces sociétés musulmanes, ça a été le déclin économique. Alors le déclin économique est devenu très important avec la découverte du Cap de Bonne-Espérance à la fin du XVe siècle, qui a porté un coup fatal aux échanges entre l'Inde et l'Europe, qui se faisait avant à travers le Moyen-Orient, et qui donc apportait une richesse énorme. Après ça, donc on est passé par le Cap de Bonne-Espérance, et le Moyen-Orient n'a plus bénéficié de tout ce commerce. Donc, voilà, donc c'était les choses importantes. Alors, je voulais vous parler de... Ah oui, alors il y a quand même eu, au XIXe siècle, il y a eu toujours, quand on dit que la Bab... Alors, le Bab al-Ijtihad, ça veut dire la porte de l'interprétation. Bab, c'est la porte, Ijtihad, interprétation. Quand on dit qu'elle a été fermée vers le XIIe siècle, elle n'a pas été complètement fermée. Elle était plus difficile, mais il y avait toujours des gens qui interprétaient, etc. Mais enfin, en gros, c'était des dictatures. Mais quand même, il y avait toujours des contestations réprimées. Et au XIXe siècle, dans les pays d'islam, il y avait eu cette classe intellectuelle moderne, très influencée par la modernité occidentale, notamment française, et qui voulait faire évoluer, moderniser la société, notamment le statut de la femme, bien sûr. Et il y a eu des mouvements très importants, féministes, en Turquie, en Égypte, surtout en Turquie et en Égypte. Ça, c'était au XIXe siècle. Les deux cas sont tout à fait différents. En Égypte, il y a eu des invasions coloniales. Là-dessus, toute cette classe d'intellectuels qui disait « il faut imiter l'Occident, c'est de là que viendra l'espoir, c'est de là, etc. » On a vu un Occident qui venait et qui s'implantait là, non pas pour des raisons démocratiques, mais pour profiter de certaines richesses. Donc là-dessus, ces gens, ces intellectuels qui prônaient de quand même s'inspirer de l'Occident ont été quand même rejetés et on a dit que c'était des traîtres et qu'on ne pouvait pas quand même s'allier avec l'ennemi qui nous colonisait. Et en Turquie, c'était autre chose. En Turquie, tout à fait autre chose, puisque la Turquie n'a jamais été colonisée. Elle a été occupée 4 ans après la guerre, en 1918. Mais... déjà, bien avant Mustafa Kemal, parce qu'on dit toujours que c'est Mustafa Kemal qui a libéré la femme, mais déjà avant, au XIXe siècle, il y avait des mouvements féministes, il y avait des journaux féministes en Turquie, à partir de... à partir de 1870 surtout. C'était les Tanzimat, c'était la période des réformes. Et il y avait des mouvements, enfin c'était pas beaucoup, mais il y avait des mouvements et des journaux féminins et féministes. Donc ce mouvement qu'on a appelé ce mouvement d'ouverture dans les pays arabes, spécialement en Égypte, alors pour terminer avec la Turquie, bien sûr, ensuite est arrivé Mustafa Kemal. Alors là, il n'y avait plus de problème parce qu'il a coupé les têtes des gens qui n'étaient pas d'accord. Et donc, il a fait des très bonnes réformes, en fait, et pour la femme et dans d'autres domaines. Et il a fait accéder la Turquie à la modernité, à une certaine modernité. Bon, les pays arabes, donc, c'était un peu différent. Hélas, après ce mouvement qui était ce mouvement libéral qui s'appelait la NADA, N-A-H-D-A, qui était né en Égypte au XIXe siècle, qui a été aussi un mouvement, il y a eu un même mouvement dans les pays musulmans de Russie, qui s'appelait le djédidisme, c'est-à-dire le nouvel islam, un islam moderne. Tout ça, en Russie, ça a été sapé et ça a été arrêté par le communisme. Donc, pendant le temps du communisme, je ne sais pas, 70 ans ou un peu plus, la religion était interdite. Et quand il y a eu la perestroïka et que les gens ont eu le droit de revenir à leur religion, ce qui s'est passé, hélas, c'est que chez les musulmans, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., ont envoyé plein de missionnaires qui enseignaient, qui ont essayé d'inculquer à ces pauvres gens un islam, l'islam wahhabite, c'est-à-dire un islam extrêmement, complètement extrémiste. Qui était un islam de leur cru, disons. Et en Égypte, il y a eu des hauts et des bas. Enfin, voilà, l'Égypte, vous savez, comme moi, il y a hélas beaucoup de il se passe beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, bon, aujourd'hui, ben voilà, le monde musulman est dans un état épouvantable. Alors, certains veulent se retourner vers l'âge d'or, un âge rêvé de l'islam. Et ce sont les fondamentalistes qui veulent revenir à un islam qu'ils imaginent. Ils veulent un islam, l'application de la charia, c'est-à-dire la loi, à la lettre, et non pas interprétée comme le voulait le prophète. Une des raisons, une des preuves que le Coran pouvait être interprété, parce que les musulmans, disons, traditionnels vont hurler. Mais une des preuves qu'ils pouvaient interpréter, c'est que même à l'intérieur du Coran, il y a certains versets qui ont été changés. Parce que les versets qui descendaient, qui étaient inspirés aux prophètes, c'était pour répondre à des questions du moment. Bon, alors on peut croire ou pas que c'est la parole de Dieu. Hein, ça, je ne me prononce pas là-dessus, c'est autre chose. Mais disons, officiellement, c'était la parole de Dieu. Et le prophète lui posait les questions sur les problèmes du moment et Dieu lui donnait une inspiration. Et c'était donc des réponses à des problèmes. Et par exemple, le problème du vin, qui est un problème mineur, mais enfin bon. Alors, le problème du vin, il y a 4 versets sur le vin dans l'islam. Le premier verset dit « Le fruit fermenté de la vigne est une très bonne chose ». Une fermentée de la vigne, c'est quand même du vin, me semble-t-il. Bon. Et puis, comme il faisait très chaud, que les gens buvaient beaucoup, un deuxième verset est arrivé et a dit, il ne faut pas, on n'a pas le droit d'aller à la prière en étant sous, ce qui me semble la moindre des choses aussi. Bon. Et puis, ensuite, les gens continuaient et on a dit, il vaut mieux ne pas boire. C'est le troisième verset. Et le quatrième verset, comme ça continuait, il est interdit de boire. Donc c'est comme ça, vous voyez. Donc, je veux dire, c'est pas qu'il y a un livre écrit dans le ciel où chacun doit. Bon, c'est que c'était des questions. Au fond, l'islam est une religion très pratique. Et c'était des questions, c'était des réponses à des questions très concrètes. Voilà. Et d'ailleurs, sur l'histoire du vin, il n'y a pas de châtiment attaché au fait de boire du vin. Si vous voulez, quand il y a des choses vraiment graves, il y a un châtiment attaché. Bon, il n'y a aucun châtiment attaché à ça, à l'alcool. Bon. Encore une fois, c'est une question mineure, mais enfin bon. Alors, oui, donc, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, on voit de tout. On pourra en parler très longtemps, mais enfin, c'est une toute autre question. Mais bon, c'est les fondamentalistes qui veulent revenir à la lettre, alors que, et donc, qui trahissent l'esprit. Parce que l'esprit, enfin, du prophète à l'époque, qui était un homme très ouvert, très progressiste, c'était donc, l'esprit de l'islam était censé, vis-à-vis des femmes, entre autres, être ouvert et progressiste. Donc c'est le trahir que d'en rester à la lettre du 7e siècle, bien évidemment. Alors quand on dit que la femme doit être vêtue de façon modeste, ça dépend de l'époque, nos grands-mères ne montraient pas leurs chevilles. C'était déjà montrer sa cheville, c'était déjà beaucoup. Donc voilà, ça dépend des époques, bien évidemment. Et donc c'est plus l'esprit de l'islam, mais hélas, aujourd'hui, il y a peu de gens, et des gens qui parlent de ça parfois ou qui prônent ce genre de choses peuvent se faire tuer. Il y a une universitaire en Turquie, il y a quand même pas mal d'années déjà, qui parlait de tout ça et qui a reçu une lettre piégée, elle est morte. Mais ça arrive partout. Il y a beaucoup de gens. Les gens qui sont le plus tués, ça vous le savez, qui sont de loin le plus tués par les extrémistes musulmans, ce sont les musulmans. C'est vraiment par centaines de milliers. Parce que les musulmans qui ne suivent pas ce que disent ces fous, qui pensent avoir la vérité, être vraiment les délégués de Dieu, les musulmans qui les mettent en question, c'est pire que si c'est un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est une autre religion, c'est de toute façon un infidèle. Bon, on s'en occupe pas en général. Bon, on s'en occupe plutôt pas. Par contre, celui à l'intérieur, c'est un traître. Et celui-là, il faut le supprimer. Donc, effectivement, les meurtres, les assassinats, etc., les bombes, c'est beaucoup, c'est surtout dans le monde musulman, notamment contre les chiites. Les chiites, parce que, comme vous savez, il y avait jamais eu, hein, il y avait très très peu de problèmes entre chiites et sunnites. Il y en avait, mais bon, c'était pas du tout au niveau où c'est aujourd'hui. Loin de là, je veux dire, moi, mon père, mon père était chiite et ma mère sunnite. Donc il y avait des mariages. Je veux dire, c'était bon, peut-être pas trop dans le peuple, mais en fait, dans les classes un peu intellectuelles, voilà. Et encore d'ailleurs, il y a toujours dans les classes artistes, intellectuelles. Parce que c'est une question mineure. C'était plus une question de l'héritage de la parole du prophète. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, ces sunnites wahhabites, enfin, en fait, sont, ou salafistes, si vous voulez, c'est à peu près la même chose. Mettent des bombes dans les mosquées musulmanes, dans les mosquées chiites, au moment de la prière, etc. Et font descendre des bus au Pakistan, j'en reviens, font descendre des bus, et demandent aux gens, regardent d'ailleurs, savent d'abord leur nom, demandent s'ils sont chiites, ils tuent tous les chiites, etc. Donc, effectivement, c'est... Bon, voilà, je pense que vous avez des questions. Je vais vous demander de poser vos questions, si vous voulez bien.